Merci beaucoup déjà pour cette invitation qui a été faite à l'ATES, donc l'association pour la traduction des sciences sociales qui a changé de nom cette année, d'où l'hésitation sur le nom. C'est pour ça que j'ai hésité sur le nom. Je remercie aussi Lison Burla d'avoir fait cette introduction de l'association qui m'évite aussi de revenir sur l'historique. Contrairement à ce que j'avais indiqué au départ, je vais recentrer un peu mon propos sur la traduction pour des revues en sciences humaines et sociales plutôt que sur la traduction des sciences humaines et sociales au sens large, c'est-à-dire que je vais laisser ici de côté ce qui relève de la traduction d'ouvrages, donc de la traduction d'ouvrages en sciences sociales et de l'autre côté la traduction des sciences humaines et sociales qui, hors édition, je pense par exemple à la traduction de communication de littérature grise. Alors, je vais faire appel évidemment à mon expérience de praticienne, mais pas tant que ça. Je m'appuie ici aussi sur des réflexions, des analyses qui sont menées, alors d'une part du côté de la thèse, et d'autre part par un collectif qui s'appelle En chair en os, qui défend une traduction humaine, dont je fais partie également. Alors pour commencer, en fait, je ne vais pas du tout parler de traduction automatique neuronale ou d'intelligence artificielle générative. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser le terme générique, et tout en ayant conscience qu'il soit flou, de traduction automatique, renvoyant plutôt à la traduction automatique neuronale, c'est-à-dire DeepL, ce qui est utilisé majoritairement aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais en renvoyant aussi au fait, en prenant acte de l'arrivée de plus en plus, enfin l'émergence, enfin, ou l'introduction en tout cas de plus en plus importante de l'intelligence artificielle générative dans notre domaine et dans la manière dont l'affecte la traduction. Donc pour ne pas commencer par parler de traduction automatique, je voudrais revenir sur, disons, le cadre juridique et statutaire qui est celui en fait des traductions, qui est aussi celui des traductions réalisées pour des revues scientifiques en SHS. Une traduction en fait est une œuvre littéraire dérivée qui est protégée par le droit d'auteur. De ce fait, les traductrices, j'utilise le féminin de majorité à dessein parce que nous sommes une profession qui est largement féminisée, donc les traductrices sont des autrices, elles ont des droits moraux et patrimoniaux. Elles ont aussi un statut spécifique, nous avons un statut spécifique qui est celui de l'artiste auteur. C'est comme ça que nous sommes considérés du point de vue fiscal. Techniquement, nous sommes payés en droits d'auteur, c'est-à-dire des droits principaux et accessoires. La somme que nous touchons au départ, concrètement, pour rentrer un peu dans le concret, est un avaloir, c'est-à-dire que il doit être suivi ensuite, il est assorti de droits proportionnels, ce qu'on appelle les droits proportionnels, c'est-à-dire un pourcentage que l'on touche sur les ventes. Ça, c'est le cadre de référence. Donc, en fait, pour le dire autrement, avec les mots d'Aurélien Catin, qui s'est beaucoup intéressé au statut des artistes-auteurs, nous sommes sur une activité de rente, et nous sommes des rentiers extrêmement précaires, comme vous vous en doutez, et spécialement en sciences humaines et sociales. Et voilà, ça c'est ce cadre-là juridique statutaire de référence. Mais il s'avère que si on regarde du côté des pratiques, on observe, nous, du point de vue, en tout cas de notre profession, certaines spécificités de la traduction en sciences humaines et sociales pour les revues. La première chose, peut-être, c'est que les parcours de traduction et les chaînes éditoriales sont beaucoup plus diversifiés de ce qu'on peut observer dans la traduction d'édition. D'ouvrages, tout genre littéraire confondu. Par exemple, on observe parfois une multiplication des acteurs et actrices qui participent au parcours de la traduction. Le périmètre aussi des missions de ces différents acteurs et actrices est parfois moins cadré que ce qu'on peut observer en traduction d'édition d'ouvrages. Un autre point, c'est la place de l'extraduction, et là principalement vers l'anglais, donc pas seulement des traductions qui sont faites vers le français, mais aussi également dans l'autre sens. Un autre point aussi à mentionner, c'est que les modalités de calcul des tarifs est extrêmement différente de ce qui se passe en traduction d'édition classiquement, avec aussi des différences dans les modalités de calcul du côté des revues. Et enfin, une diversité statutaire et contractuelle, alors qui, pour en avoir un tout petit peu parlé, et j'en ai conscience pas suffisamment avec des éditrices de revues en sciences humaines et sociales, il y a des contraintes budgétaires et gestionnaires. On observe par exemple une quasi-absence des contrats d'édition, avec donc dans les relations entre traductrices et revues. Une utilisation assez conséquente, un récent questionnaire qui a été réalisée par l'ATES montre que dans 58% des cas, dans les traductions de revues, on a recours à l'auto-entreprise, recours que je précise au passage n'est pas licite, puisque un artiste-auteur ne peut émettre de facture. Voilà, donc ça, ce sont les principaux points. Ah si, j'en oublie un quand même important qui était à mentionner ce matin, c'est aussi la place, enfin l'usage de licences Creative Commons dans le cadre de la politique de la science ouverte. Donc voilà, c'était une introduction un peu longue avant de rentrer plus en avant dans le sujet de la relation entre traduction automatique et traduction en sciences sociales. Je voudrais m'arrêter sur deux points en particulier ici. D'une part, les effets de la post-édition sur les actes traductifs, et dans une moindre mesure sur les traductions, si j'ai le temps d'en parler. Et d'autre part, les effets que la traduction automatique a sur les conditions d'exercice et d'existence des traductrices. Donc, pour parler d'abord de la post-édition, par post-édition, on peut la définir comme une reprise d'un texte généré par un moteur de traduction automatique. J'utilise le terme de reprise et pas de révision, puisque en fait, un travail de révision et de correction d'un texte qui a été écrit par un être humain est quelque chose d'assez différent. Voilà, en termes de travail, de travail que ça engage de la part de la personne qui soit corrige dans un cas, soit post-édite dans l'autre. C'est pour ça que je parle ici de reprise. J'aimerais aussi aborder la post-édition de manière un peu différente, en allant chercher du côté d'une autre définition qui n'a pas été forgée au départ pour désigner la post-édition, mais que je trouve utile pour réinterroger en fait ce qui s'y joue, qui est dit de la voir aussi comme une délégation de performance analytique à des automates algorithmiques. J'emprunte l'expression à Anne Alombert, qui est philosophe de la technique et coprésidente du Conseil national au numérique. Donc ce qui joue ici, ce qui se joue en premier lieu ici à notre sens, c'est que la post-édition, le texte généré par un moteur de traduction automatique, se substitue au premier jet qui est normalement effectué par la traductrice en sciences humaines et sociales. Or, ce premier jet, c'est une étape heuristique fondamentale qui n'existe qu'à travers l'acte traductif, il n'existe pas en dehors de l'acte traductif, qui a un moment d'appropriation, de documentation, de lecture critique et aussi d'expérimentation en fait, dans les choix de traduction qui vont être faits. C'est un moment très important car il permet de comprendre les conditions de production du texte original, qu'il s'agisse des intentions de l'auteur, du projet éditorial qui a aussi prévalu à la publication du texte, si dans le cas où ce texte original n'est pas un inédit. Je rappelle aussi à toute fin utile, à la suite de Vanina Mosiconacci, Samantha Saidi et Héloïse Thomas, qu'une traduction ne s'effectue jamais dans l'abstrait, mais toujours dans le cadre d'un projet éditorial. Voilà, donc ce qui se joue ici, de notre point de vue, et dans les discussions qu'on a pu avoir aussi, je m'appuie aussi sur un ensemble de témoignages qu'on a recueillis récemment. C'est un dessaisissement du raisonnement, j'emprunte l'expression à la politiste Julie Paquette, avec cette disparition du premier jet au profit d'un texte généré par la machine. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est celui du biais d'ancrage, c'est-à-dire le fait d'être marqué par une première lecture ou la première impression de la traduction générée par la machine, dont il est ensuite difficile de se départir. Ce biais d'ancrage, il a deux conséquences. Déjà, la première, c'est le surrepérage des erreurs grossières, alors soit des erreurs grossières lexicales, je pense au contresens, au faux sens, par exemple, lexicales ou terminologiques, et aux traductions littérales. Et le deuxième concerne ce qui est souvent dénommé sous le nom d'hallucination. Donc là, à la fois des élisions, des omissions ou des inventions qui sont générées par la machine. Et ce temps-là de correction pourrait aussi être dévolu, à notre sens, à autre chose. Le deuxième effet corollaire, c'est finalement aussi un sous-repérage ou en tout cas une invisibilisation d'autres points problématiques qui apparaissent dans le texte généré par la machine. Je pense en particulier aux calques, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler des illusions homographiques community, par exemple, sera rarement traduit par communauté. En tout cas, c'est un choix parmi d'autres. Et aussi un renforcement qui a été assez bien documenté des biais de genre qui, autrement, auraient été pris en charge dès le premier jet et qui n'auraient pas connu ce sort-là. Le troisième point, enfin, c'est l'opacité et le manque de traçabilité des prédictions. Il a été question de boîte noire tout à l'heure. Je pense qu'on pourrait utiliser aussi ce terme. Il est effectivement extrêmement difficile de savoir comment, enfin, impossible en fait, de savoir comment on est arrivé à ce résultat, contrairement à un texte original. Et une traduction humaine qu'on effectue soi-même. En fait, la particularité aussi, du travail pour les revues, c'est qu'on travaille quand même majoritairement avec des auteurs vivants, et donc on peut leur poser des questions. Et il y a d'ailleurs une collaboration assez importante qui est attestée quasiment par toutes les personnes avec qui on a pu en discuter ces discussions autour notamment de la terminologie qui ont lieu à la fois avec les auteurs et les autrices des textes, mais aussi avec les éditeurs et les éditrices. Juste pour cette question de la traçabilité, je voudrais aussi l'associer à un autre point, c'est la surreprésentation des occurrences les plus fréquentes. Et qui conduisent à une homogénéisation et une standardisation de la langue dans le texte généré par la machine, qu'il est parfois aussi difficile de rattraper lorsqu'on post-édite. Je m'appuie notamment sur le travail de Waltraub Kolb et de Claire Larsener, qui ont travaillé sur ces questions-là. Je voudrais passer maintenant aux effets que la traduction automatique a sur les conditions d'exercice des traductrices. Il en a été question dans la...
Il va te rester 3 minutes.
Ok. Il en a été question dans la présentation de Lison Burla, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas, on a affaire à la fois à une transformation du travail. Là, les points de vue sont unanimes. La post-édition est une tâche à la fois rébarbative et chronophage. Dans les questionnaires, notamment les enquêtes du CEATL, le Centre européen des associations de traduction littéraire, le questionnaire de l'ATES, le rapport TES-TRA-DSHS, montrent que le temps est à peine inférieur, équivalent, voire dans certains cas extrêmement supérieur à une traduction humaine. D'autre part, on observe un déplacement du travail, donc en amont, notamment sur les phases d'entraînement, des moteurs de TA, en aval également avec la post-édition. Je ne reviens pas là-dessus parce que, disons, on a un peu parlé. Je parlerai aussi ensuite de la précarisation. Concrètement, faire de la post-édition, c'est être payé en moyenne 30% à 50% moins cher que pour des tarifs traduction. Ce qui peut mener très concrètement des personnes qui sont généralement titulaires d'un master et d'un doctorat à travailler pour une rémunération qui est parfois inférieure au SMIC horaire tout en ayant un statut d'indépendant. Je voudrais enfin conclure sur déjà la... trois petits points. Désolée, je vais déborder un peu. Revenir sur un sujet qui a été abordé ce matin, c'est-à-dire la transcription en droit français de cette directive européenne sur l'exception à la fouille de textes et de données expose les traductrices effectivement à un risque attesté de contrefaçon. On peut effectivement exercer notre droit d'opt-out, c'est-à-dire s'opposer à l'utilisation de ces données. En revanche, comme il a été mentionné ce matin, ce droit d'opt-out est pour l'instant peu opératoire, bien qu'il soit présent dans des contrats d'édition, notamment ceux de l'Association des traducteurs littéraires de France et ceux du SNE. Et en l'absence quasi systématique de contrats d'édition dans les relations avec les revues, il est aussi difficile de faire prévaloir son droit d'opt-out par le biais des contrats. Enfin, je voudrais parler des avantages qu'apporterait la traduction automatique aux traductrices qu'on peine clairement à identifier. D'une part, il n'y a pas de gain de temps. On observe également non seulement une baisse de qualité, mais un déplacement de ce qu'on entend par la notion de qualité. Voilà, je conclurai sur cette question. Voilà, qui profite aussi ces innovations fondées sur la traduction automatique. Merci.